La comtesse de Rudolstadt, chapitre 8. Je devine que tu vas me parler de lui, dit la princesse en écartant les bougies pour mieux voir la narratrice et en posant ses deux coudes sur la table. En descendant le cours de la Moldau sur la frontière bavaroise, nous fûmes enlevés par des recruteurs au service du roi votre frère, et flattés de la riante espérance de devenir fifre et tambour, Hind et moi, dans les glorieuses armées de sa majesté. « Toi, tambour ?» s'écria la princesse en éclatant de rire. « Ah, si De Kleist t'avait vu ainsi, je gage que tu lui aurais tourné la tête. » « Mon frère, tu pries pour son page, et Dieu sait quel ravage tu eusses fait dans le cœur de nos belles dames. »« Mais que parles-tu de Hind ? Je connais ce nom-là. J'ai reçu dernièrement de la musique de ce Hind, je me le rappelle, et c'est de la bonne musique. Ce n'est pas l'enfant dont tu parles. »« Pardonnez-moi, madame, c'est un garçon d'une vingtaine d'années qui a l'air d'en avoir 15. » C'est mon compagnon de voyage. C'était mon ami, sincère et fidèle. À la lisière d'un petit bois où nos ravisseurs s'arrêtèrent pour déjeuner, nous prîmes la fuite. On nous poursuit. Nous courûmes comme des lièvres et nous eûmes le bonheur d'atteindre un carrosse de voyage qui renfermait le noble et beau Frédéric de Trinque et un ci-devant conquérant, le comte Auditz de Roswald. « Le mari de ma tante, la margrave de Kulmbach ?» s'écria la princesse. « Encore un mariage d'amour, De Kleist. C'est au reste la seule chose honnête et sage que ma grosse tante ait faite en sa vie. Comment est-il, ce comte Auditz ?» Consuelo allait entreprendre un portrait détaillé du châtelain de Roswald. Mais la princesse l'interrompit pour lui faire mille questions sur Trinque, sur le costume qu'il portait ce jour-là, sur les moindres détails. Et lorsque Consuelo lui raconta comme quoi Trinque avait volé à sa défense, comme quoi il avait failli être atteint d'une balle, comme quoi enfin il avait mis en fuite les brigands et délivré un malheureux déserteur qu'ils emmenaient pieds et poings liés dans leur carriole, il fallut qu'elle recommençât, qu'elle expliqua les moindres circonstances et qu'elle rapporta les paroles les plus indifférentes. La joie et l'attendrissement de la princesse furent au comble lorsqu'elle apprit que Trinque et le comte Auditz, ayant emmené les deux jeunes voyageurs dans leur voiture, le baron n'avait fait aucune attention à Consuelo, qu'il n'avait cessé de regarder un portrait caché dans son sein, de soupirer et de parler au comte d'un amour mystérieux pour une personne haut placée qui faisait le bonheur et le désespoir de sa vie. Quand il fut permis à Consuelo de passer outre, elle raconta que le comte Auditz, ayant deviné son sexe à Passau, avait voulu se prévaloir un peu trop de la protection qu'il lui avait accordée, et qu'elle s'était sauvée avec Hind pour reprendre son voyage, modeste et aventureux, sur un bateau qui descendait le Danube. Enfin, elle raconta de quelle manière, en jouant du pipeau, tandis que Hind, muni de son violon, faisait danser les paysans pour avoir de quoi dîner, elle était arrivée, un soir, à un joli prieuré, toujours déguisé, et se donnant pour le signor Bertoni, musicien ambulant et zingaro de son métier. L'hôte de ce prieuré était, dit-elle, un mélomane passionné, et de plus un homme d'esprit et un cœur excellent. Il nous prit, moi particulièrement, en grande amitié et voulut même m'adopter, me promettant un joli bénéfice si je voulais prendre seulement les ordres mineurs. Le sexe masculin commençait à me lasser. Je ne me sentais pas plus de goût pour la tonsure que pour le tambour. Mais un événement bizarre me fit prolonger un peu mon séjour chez cette aimable hôte. Une voyageuse qui courait la poste fut prise des douleurs de l'enfantement à la porte du prieuré et y accoucha d'une petite fille qu'elle abandonna le lendemain matin et que je persuadai au bon chanoine d'adopter à ma place. Elle fut nommée Angèle, du nom de son père, Anzoletto. et Madame Corilla, sa mère, alla briguer à Vienne un engagement au théâtre de la cour. Elle l'obtint, à mon exclusion. Monsieur le prince de Kaunitz la présenta à l'impératrice Marie-Thérèse comme une respectable veuve, et je fus rejetée, comme accusée et véhémentement soupçonnée d'avoir de l'amour pour Joseph Hind, qui recevait les leçons du Porpora et qui demeurait dans la même maison que nous. Consuelo détailla son entrevue avec la grande impératrice. La princesse était fort curieuse d'entendre parler de cette femme extraordinaire, à la vertu de laquelle on ne voulait point croire à Berlin, et à qui l'on donnait pour amant le prince de Kaunitz, le docteur von Swieten et le poète Métastase. Consuelo raconta enfin sa réconciliation avec la Corilla, à propos d'Angèle, et son début dans les premiers rôles au théâtre impérial, grâce à un remords de conscience et à un élan généreux de cette fille singulière. Puis elle dit les relations de noble et douce amitié qu'elle avait eues avec le baron de Trinque chez l'ambassadeur de Venise, et rapporta minutieusement qu'en recevant les adieux de cet aimable jeune homme, elle était convenue avec lui d'un moyen de s'entendre, si la persécution du roi de Prusse venait à en faire naître la nécessité. Elle parla du cahier de musique dont les feuillets devaient servir d'enveloppe et de signature aux lettres qu'il lui ferait parvenir, au besoin, pour l'objet de ses amours. Et elle expliqua comment elle avait été éclairée récemment par un de ses feuillets sur l'importance de l'écrit kabbalistique qu'elle avait remis à la princesse. On pense bien que ces explications prirent plus de temps que le reste du récit. Enfin, la Porporina, ayant dit son départ de Vienne avec le Porpora et de quelle manière elle avait rencontré le roi de Prusse, sous l'habit d'un simple officier et sous le nom du baron de Krötz, au château merveilleux de Roswald, en Moravie, elle fut obligée de mentionner le service capital qu'elle avait rendu au monarque, sans le connaître. « Voilà ce que je suis curieuse d'apprendre !» dit Madame de Kleist. « Monsieur de Pellnitz, qui babille volontiers, m'a confié que dernièrement, à souper, Sa Majesté avait déclaré à ses convives que son amitié pour la belle Porporina avait des causes plus sérieuses qu'une simple amourette. « J'ai fait une chose bien simple pourtant, » répondit Madame de Rudolfstadt. « J'ai usé de l'ascendant que j'avais sur un malheureux fanatique pour l'empêcher d'assassiner le roi. Karl, ce pauvre géant bohémien, que le baron de Trinque avait arraché des mains des recruteurs en même temps que moi, était entré au service du comte Auditz. Il venait de reconnaître le roi. Il voulait venger sur lui la mort de sa femme et de son enfant, que la misère et le chagrin avaient tué à la suite de son second enlèvement. Heureusement, cet homme n'avait pas oublié que j'avais contribué aussi à son salut, et que j'avais donné quelques secours à sa femme. Il se laissa convaincre et ôtait le fusil des mains. Le roi, caché dans un pavillon voisin, entendit tout ainsi qu'il me l'a dit depuis, et de crainte que son assassin n'eût quelque retour de fureur, il prit pour s'en aller un autre chemin que celui où Karl s'était proposé de l'attendre. Le roi voyageait seul à cheval avec monsieur de Budenbrock. Il était donc fort probable qu'un habile tireur comme Karl, à qui le matin j'avais vu abattre 3 fois le pigeon sur un mât dans la fête que le comte Auditz nous avait donnée, n'aurait pas manqué son coup. « Dieu sait !» dit la princesse d'un air rêveur. Quel changement ce malheur aurait amené dans la politique européenne et dans le sort des individus! Maintenant, ma chère Rudolfstadt, je crois que je sais très bien le reste de ton histoire, jusqu'à la mort du comte Albert. À Prague, tu as rencontré son oncle, le baron, qui t'a amené au château des géants pour le voir mourir d'étisie, après t'avoir épousé au moment de rendre le dernier soupir. Tu n'avais donc pas pu te décider à l'aimer. « Hélas, madame, je l'ai aimé trop tard, et j'ai été bien cruellement punie de mes hésitations et de mon amour pour le théâtre. Forcée par mon maître Porpora de débuter à Vienne, trompée par lui sur les dispositions d'Albert, dont il avait supprimé les dernières lettres, et que je croyais guérie de son fatal amour, je m'étais laissée entraîner par les prestiges de la scène, et j'avais fini, en attendant que je fusse engagée à Berlin, par jouer à Vienne avec une sorte d'ivresse. « Et avec gloire !» dit la princesse. « Nous savons cela !»« Gloire misérable et funeste !» reprit Consuelo. « Ce que votre Altesse ne sait point, c'est qu'Albert était venu secrètement à Vienne, qu'il m'avait vu jouer, qu'attaché à tous mes pas, comme une ombre mystérieuse, il m'avait entendu avouer à Joseph Hind, dans la coulisse, que je ne saurais pas renoncer à mon art sans un affreux regret. Cependant, j'aimais Albert. Je jure devant Dieu que j'avais reconnu en moi qu'il m'était encore plus impossible de renoncer à lui qu'à ma vocation, et que je lui avais écrit pour le lui dire. Mais le Porpora, qui traitait cet amour de chimère et de folie, avait surpris et brûlé ma lettre. Je retrouvai Albert dévoré par une rapide consomption. Je lui donnai ma foi et ne pus lui rendre la vie. Je l'ai vu sur son lit de parade, vêtu comme un seigneur des anciens jours, beau dans les bras de la mort, et le front serein comme celui de l'ange du pardon. Mais je n'ai pu l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Je l'ai laissé dans la chapelle ardente du château des Géants, sous la garde de Zanko, ce pauvre prophète insensé qui m'a tendu la main en riant et en se réjouissant du tranquille sommeil de son ami. Lui, du moins, plus pieux et plus fidèle que moi, l'a déposé dans la tombe de ses pères, sans comprendre qu'il ne se relèverait plus de ce lit de repos. Et moi, je suis parti, entraîné par le Porpora, ami dévoué mais farouche, cœur paternel mais inflexible, qui me criait aux oreilles jusque sur le cercueil de mon mari « Tu débutes samedi prochain dans les virtuoses ridicules !» Étrange vicissitude, en effet, d'une vie d'artiste, dit la princesse en essuyant une larme, car la Porporina sanglotait en achevant son histoire. Mais tu ne me dis pas, cher Consuelo, le plus beau trait de ta vie, et c'est de quoi Superville m'a informé avec admiration. Pour ne pas affliger la vieille chanoinesse et ne pas te départir de ton désintéressement romanesque, tu as renoncé à ton titre, à ton douaire, à ton nom. Tu as demandé le secret à Superville et au Porpora, seul témoin de ce mariage précipité, et tu es venu ici, pauvre comme devant, d'Ingarella comme toujours. « Et artiste à jamais, » répondit Consuelo, « c'est-à-dire indépendante, vierge et morte à tout sentiment d'amour, tel enfin que le Porpora me représentait sans cesse le type idéal de la prêtresse des muses. Il l'a emporté, mon terrible maître, et me voilà arrivé au point où il voulait. Je ne crois point que j'en sois plus heureuse, ni que j'en vaille mieux. Depuis que je n'aime plus, et que je ne me sens plus capable d'aimer, je ne sens plus le feu de l'inspiration, ni les émotions du théâtre. Ce climat glacé et cette atmosphère de la cour me jettent dans un morne abattement. L'absence du Porpora, l'espèce d'abandon où je me trouve, et la volonté du roi qui prolonge mon engagement contre mon gré, je puis vous l'avouer, n'est-ce pas, madame? J'aurais dû le deviner. Pauvre enfant, on te croit fière de l'espèce de préférence dont le roi t'honore. Mais tu es sa prisonnière et son esclave, comme moi, comme toute sa famille, comme ses soldats, comme ses favoris, comme ses pages, comme ses petits chiens. Ô prestige de la royauté, auréole des grands princes, que tu es maussade à ceux dont la vie s'épuise à te fournir de rayons et de lumière. Mais, cher Consuelo, tu as encore bien des choses à me dire, et ce ne sont pas celles qui m'intéressent le moins. J'attends de ta sincérité que tu m'apprennes positivement en quels termes tu es avec mon frère, et je la provoquerai par la mienne. Croyant que tu étais sa maîtresse, et me flattant que tu pourrais obtenir de lui la grâce de Trinque, je t'avais recherché pour remettre notre cause entre tes mains. Maintenant que, grâce au ciel, nous n'avons plus besoin de toi pour cela, et que je suis heureuse de t'aimer pour toi-même, je crois que tu peux me dire tout sans te compromettre, d'autant plus que les affaires de mon frère ne me paraissent pas bien avancées avec toi. » La manière dont vous vous exprimez sur ce chapitre me fait frémir, madame, répondit Consuelo en pâlissant. Il y a 8 jours seulement que j'entends chuchoter autour de moi d'un air sérieux sur cette prétendue inclination du roi notre maître pour sa triste et tremblante sujette. Jusque-là, je n'avais jamais vu de possible entre lui et moi qu'une causerie enjouée, bienveillante de sa part, respectueuse de la mienne. Il m'a témoigné de l'amitié et une reconnaissance trop grande pour la conduite si simple que j'ai tenue à Roswald. Mais de là à l'amour, il y a un abîme, et j'espère bien que sa pensée ne l'a pas franchi. Moi, je crois le contraire. Il est brusque, taquin et familier avec toi, il te parle comme un petit garçon, il te passe la main sur la tête comme à ses lévriers. Il affecte devant ses amis depuis quelques jours d'être moins amoureux de toi que de qui que ce soit. Tout cela prouve qu'il est en train de le devenir. Je le connais bien, moi. Je te réponds qu'avant peu il faudra te prononcer. Quel parti prendras-tu? Si tu lui résistes, tu es perdu. Si tu lui cèdes, tu l'es encore plus. Que feras-tu, le cas échéant? Ni l'un ni l'autre, madame. Je ferai comme ces recrues, je déserterai. Cela n'est pas facile, et je n'en ai guère envie, car je m'attache à toi singulièrement, et je crois que je mettrai les recruteurs encore une fois à tes trousses plutôt que de te voir partir. Allons, nous chercherons un moyen. Le cas est grave et demande réflexion. Raconte-moi tout ce qui s'est passé depuis la mort du comte Albert. Quelques faits bizarres et inexplicables au milieu d'une vie monotone et sombre. Je vous les dirai tels qu'ils sont, et votre Altesse m'aidera peut-être à les comprendre. J'essaierai, à condition que tu m'appelles Amélie, comme tout à l'heure. Il n'est pas minuit, et je ne veux être Altesse que demain au grand jour. » La Porporina reprit son récit en ces termes. J'ai déjà raconté à madame de Clest, lorsqu'elle m'a fait l'honneur de venir chez moi pour la première fois, que j'avais été séparée du Porpora en arrivant de Bohême, à la frontière russe. J'ignore encore aujourd'hui si le passeport de mon maître n'était pas en règle, ou si le roi avait devancé notre arrivée par un de ses ordres dont la rapidité tient du prodige, pour interdire au Porpora l'entrée de ses états. Cette pensée, peut-être coupable, m'était venue d'abord, car je me souvenais de la légèreté brusque et de la sincérité frondeuse que le Porpora avait mise à défendre l'honneur de Trinque et à blâmer la dureté du roi, lorsqu'à un souper chez le comte Auditz, en Moravie, le roi, se donnant pour le baron de Creutz, nous avait annoncé lui-même la prétendue trahison de Trinque et sa réclusion à Glatz. « En vérité ? » s'écria la princesse. « C'est à propos de Trinque que maître Porpora a déplu au roi ?» Le roi ne m'en a jamais reparlé, et j'ai craint de l'en faire souvenir, mais il est certain que malgré mes prières et les promesses de sa majesté, le Porpora n'a jamais été rappelé. « Et il ne le sera jamais !» reprit Amélie. Car le roi n'oublie rien et ne pardonne jamais la franchise quand elle blesse son amour-propre. Le Salomon du Nord hait et persécute quiconque doute de l'infaillibilité de ses jugements, surtout quand son arrêt n'est qu'une feinte grossière, un odieux prétexte pour se débarrasser d'un ennemi. Ainsi, fais-en ton deuil, mon enfant. Tu ne reverras jamais le Porpora à Berlin. Malgré le chagrin que j'éprouve de son absence, je ne désire plus le voir ici, madame, et je ne ferai plus de démarches pour que le roi lui pardonne. J'ai reçu ce matin une lettre de mon maître qui m'annonce la réception d'un opéra de lui au Théâtre impérial de Vienne. Après 1000 traverses, il est donc enfin arrivé à son but, et la pièce va être mise à l'étude. Je songerai bien plutôt désormais à le rejoindre qu'à l'attirer. Mais je crains fort de ne pas être plus libre de sortir d'ici que je n'étais libre de n'y pas entrer. Que veux-tu dire? À la frontière, lorsque je vis que l'on forçait mon maître à remonter en voiture et à retourner sur ses pas, je voulus l'accompagner et renoncer à mon engagement avec Berlin. J'étais tellement indigné de la brutalité et de l'apparente mauvaise foi d'une telle réception que j'aurais payé le débit en travaillant à la sueur de mon front plutôt que de pénétrer plus avant dans un pays si despotiquement régi. Mais au premier témoignage que je donnais de mes intentions, je fus sommé par l'officier de police de monter dans une autre chaise de poste qui fut amenée et attelée en un clin d'œil. Et comme je me vis entouré de soldats bien déterminés à m'y contraindre, j'embrassai mon maître en pleurant et je pris le parti de me laisser conduire à Berlin, où j'arrivais, brisé de fatigue et de douleur, à minuit. On me déposa tout près du palais, non loin de l'opéra, dans une jolie maison appartenant au roi, et disposée de manière à ce que j'y fusse logé absolument seul. J'y trouvai des domestiques à mes ordres et un souper tout préparé. J'ai su que M. de Pölnitz avait reçu l'ordre de tout disposer pour mon arrivée. J'y étais à peine installé lorsqu'on me fit demander de la part du baron de Kreutz si j'étais visible. Je m'empressai de le recevoir, impatiente que j'étais de me plaindre à lui de l'accueil fait au Porpora et de lui en demander la réparation. Je feignis donc de ne pas savoir que le baron de Kreutz était Frédéric II. Je pouvais l'ignorer. Le déserteur Karl, en me confiant son projet de l'assassiner, comme officier supérieur prussien, ne me l'avait pas nommé, et je ne l'avais appris que de la bouche du comte Auditz, après que le roi eut quitté Roswald. Il entra d'un air riant et affable que je ne lui avais pas vu sous son incognito. Sous son pseudonyme et en pays étranger, il était un peu gêné. À Berlin, il me sembla avoir retrouvé toute la majesté de son rôle, c'est-à-dire la bonté protectrice et la douceur généreuse dont il s'est si bien orné dans l'occasion sa toute-puissance. Il vint à moi en me tendant la main et en me demandant si je me souvenais de l'avoir vu quelque part. « Oui, monsieur le baron, lui répondis-je. Et je me souviens que vous m'avez offert et promis vos bons services à Berlin, si je venais à en avoir besoin. » Alors je lui racontai avec vivacité ce qui m'était arrivé à la frontière, et je lui demandai s'il ne pouvait pas faire parvenir au roi la demande d'une réparation pour cet outrage fait à un maître illustre et pour cette contrainte exercée envers moi. « Une réparation ?» répondit le roi en souriant avec malice. « Rien que cela. Monsieur Porpora voudrait-il appeler en chant-clos le roi de Prusse? Et mademoiselle Porporina exigerait peut-être qu'il mît un genou en terre devant elle. » Cette raillerie augmenta mon dépit. « Votre majesté peut ajouter l'ironie à ce que j'ai déjà souffert, » répondis-je. « Mais j'aimerais mieux avoir à la bénir qu'à la craindre. » Le roi me secoua le bras un peu rudement. « Ah, vous jouez aussi au plus fin !» dit-il en attachant ses yeux pénétrants sur les miens. « Je vous croyais simple et pleine de droiture, et voilà que vous me connaissiez parfaitement bien, Roswald !»« Non, sire, répondis-je, je ne vous connaissais pas, et plût au ciel que je ne vous eusse jamais connu. » « Je n'en puis dire autant, reprit-il avec douceur, car sans vous, je serais peut-être resté dans quelque fossé du parc de Roswald. Le succès des batailles n'est point une égide contre la balle d'un assassin, et je n'oublierai jamais que si le destin de la Prusse est encore entre mes mains, c'est à une bonne petite âme, ennemie des lâches complots, que je le dois. Ainsi, ma chère Porporina, votre mauvaise humeur ne me rendra point ingrat. Calmez-vous, je vous prie, et racontez-moi bien ce dont vous avez à vous plaindre, car jusqu'ici je n'y comprends pas grand-chose. » Soit que le roi feignît de ne rien savoir, soit qu'en effet les gens de sa police eussent cru voir quelques défauts de forme dans les papiers de mon maître, il écouta mon récit avec beaucoup d'attention, et me dit ensuite, de l'air calme d'un juge qui ne veut pas se prononcer à la légère, « J'examinerai tout cela et vous en rendrai bon compte. Je serais fort surpris que mes gens eussent cherché noise, sans motif, à un voyageur en règle. Il faut qu'il y ait quelque malentendu. Je le saurai, soyez tranquille. Et si quelqu'un a outrepassé son mandat, il sera puni.
Sire, ce n'est pas là ce que je demande. Je vous demande le rappel du porpora.
Et je vous le promets, répondit-il. Maintenant, prenez un air moins sombre et racontez-moi comment vous avez découvert le secret de mon incognito.
Je causai alors librement avec le roi, et je le trouvai si bon, si aimable, si séduisant par la parole, que j'oubliai toutes les préventions que j'avais contre lui, pour n'admirer que son esprit, à la fois judicieux et brillant, ses manières aisées dans la bienveillance que je n'avais pas trouvée chez Marie-Thérèse. Enfin, la délicatesse de ses sentiments sur toutes les matières auxquelles il toucha dans la conversation.
Écoutez, me dit-il en prenant son chapeau pour sortir. J'ai un conseil d'ami à vous donner dès votre arrivée ici. C'est de ne parler à qui que ce soit du service que vous m'avez rendu et de la visite que je vous ai faite ce soir. Bien qu'il n'y ait rien que de fort honorable pour nous deux dans mon empressement à vous remercier, cela donnerait lieu à une idée très fausse des relations d'esprit et d'amitié que je désire avoir avec vous. On vous croirait avide de ce que, dans le langage des cours, on appelle la faveur du maître. Vous seriez un objet de méfiance pour les uns et de jalousie pour les autres. Le moindre inconvénient serait de vous attirer une nuée de solliciteurs qui voudraient faire de vous le canal de leurs sottes demandes. Et comme vous auriez sans doute le bon esprit de ne pas vouloir jouer ce rôle, vous seriez en butte à leur obsession ou à leur inimitié.
« Je promets à votre majesté, répondis-je, d'agir comme elle vient de me l'ordonner. »
« Je ne vous ordonne rien, Consuelo, reprit-il, mais je compte sur votre sagesse et sur votre droiture. J'ai vu en vous du premier coup d'œil une belle âme et un esprit juste. Et c'est parce que je désirais faire de vous la perle fine de mon département des beaux-arts que j'avais envoyé, du fond de la Silésie, l'ordre de vous fournir une voiture à mes frais pour vous amener de la frontière, dès que vous vous y présenteriez. Ce n'est pas ma faute si on vous en a fait une espèce de prison roulante et si on vous a séparé de votre protecteur. En attendant qu'on vous le rende, je veux le remplacer. Si vous me trouvez digne de la même confiance et du même attachement que vous avez pour lui.
J'avoue, ma chère Amélie, que je fus vivement touchée de ce langage paternel et de cette amitié délicate. Il s'y mêla peut-être un peu d'orgueil, et les larmes me vinrent aux yeux lorsque le roi me tendit la main en me quittant. Je faillis la lui baiser, comme c'était sans doute mon devoir. Mais puisque je suis en train de me confesser, je dois dire qu'au moment de le faire, je me sentis saisie de terreur et comme paralysée par le froid de la méfiance. Il me sembla que le roi me cajolait et flattait mon amour-propre pour m'empêcher de raconter cette scène de Roswald, qui pouvait produire dans quelques esprits une impression contraire à sa politique. Il me sembla aussi qu'il craignait le ridicule d'avoir été bon et reconnaissant envers moi. Et puis, tout à coup, en moins d'une seconde, je me rappelais le terrible régime militaire de la Prusse, dont le baron Trinck m'avait informé minutieusement. La férocité des recruteurs, les malheurs de Karl, la captivité de ce noble Trinck, que j'attribuais à la délivrance du pauvre déserteur, les cris d'un soldat que j'avais vu battre le matin en traversant un village, et tout ce système despotique qui fait la force et la gloire du grand Frédéric. Je ne pouvais plus le haïr personnellement, mais déjà je revoyais en lui ce maître absolu, cet ennemi naturel des cœurs simples qui ne comprennent pas la nécessité des lois inhumaines et qui ne sauraient pénétrer les arcanes des empires.